prière d'abord, en commençant notre session. Ça nous servira aussi peut-être de chemin, d'orientation, à travers les jours que nous passerons ensemble à méditer, d'approfondir la parole de Dieu. C'est pourquoi je finis chaque jour, c'est le chapitre, la fin du chapitre 3e, comme vous savez. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Amen.
Préparer l'évangile de Luc,
mais je comptais prendre Luc bien sûr comme base, mais vous proposer quelque chose d'un peu nouveau peut-être à partir de Luc et à partir d'Éphésiens, puisque vous aviez posé la question de Luc et Éphésiens, et j'ai essayé de voir quels étaient les rapprochements que l'on pouvait faire entre l'œuvre totale de Luc, c'est-à-dire Luc et les Actes, et l'Épître aux Éphésiens. Et je dois dire que le travail préalable que j'ai fait, il n'est pas terminé puisque nous allons le faire ensemble, le travail que j'ai commencé m'apparaît quelque chose d'extrêmement intéressant pour notre perception de ce qu'est l'Église aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a encore de la place là derrière, parce qu'il y a encore... Si vous désirez. Il y en a encore une ici. Alors, donc, en partant d'une réflexion sur l'évangile de Luc que nous avons déjà vu, et en confrontant avec l'épître aux Éphésiens, nous allons, j'espère, découvrir un des visages de l'Église qui existait au début du christianisme. Vous savez que. L'Église telle que nous la connaissons n'existait pas à la fin du 1er siècle. C'était bien sûr la même Église, mais pas telle que nous la connaissons. Puisqu'elle devait trouver sa route, chercher son chemin. Et donc, il ne faut pas s'étonner si dès la fin du 1er siècle, il y avait différentes manières de percevoir et d'envisager l'Église. Ce que nous appelons l'Église avec un grand « et ». On n'a pas commencé par parler de l'Église avec un grand « et ». On a commencé par parler de communautés locales. Hein, ce sont ces communautés qui, petit à petit, nous ont amené à découvrir que ces communautés diverses sont cependant profondément unies. Donc, ce que nous percevons aujourd'hui, il y a des théologies différentes de l'Église aujourd'hui, que nous percevons aujourd'hui, était déjà présent à la fin du 1er siècle. Et nous voulons regarder un peu les choses telles qu'elles nous sont données, par exemple, par les Actes des Apôtres. Nous voyons que Jésus a vécu avec des personnes que l'on appelait disciples, hommes, femmes qui suivaient Jésus, sur un chemin qui était d'abord la Galilée, et ce chemin s'étendait de temps en temps vers Jérusalem, à travers la Samarie ou bien le long du Jourdain. Et petit à petit, c'est devenu une communauté ambulante, un peu différente des communautés à la tête desquelles se trouvait un rabbin, et qui généralement était fixé en un endroit bien déterminé, soit par exemple au bord du lac, soit à Nazareth. Nazareth était vraiment un petit trou, mais à côté de Nazareth, on découvre aujourd'hui, il y avait une grande ville. Une grande ville qui, à l'époque romaine et à l'époque hellénistique, pouvait peut-être comprendre 20 000, 25 000 habitants, et qui s'appelle Sepphoris, qu'on est juste en train de découvrir maintenant depuis 4 ou 5 ans en Israël. On a fait des fouilles et on a découvert que pratiquement Nazareth était une toute petite banlieue par rapport à cette grande ville dont on ne parle jamais dans l'évangile et qui était en reconstruction à l'époque de l'enfance de Jésus. Et peut-être bien que avec Joseph ou sans Joseph, je ne sais pas, il a travaillé dans cette ville, la reconstruction de cette ville. Donc on a exhumé quelques maisons de riches romains qui habitaient là-bas. Il y a un grand théâtre. Et vous savez que ce sont les romains qui véhiculaient la culture et donc qui amenaient aussi des troupes de gens qui jouaient dans ce théâtre, soit de la musique, soit des pièces de théâtre. Et on a découvert ça, mais tout à fait récemment. On savait que la ville existait. Il y avait même encore un endroit où l'on disait que Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie, avaient habité Sepphoris, Tsipori, c'est-à-dire le village de l'oiseau.
C'est écrit comment?
Sepphoris. On écrit de plusieurs manières différentes. On écrit Sepphoris comme ça, mais c'est Sipori en hébreu. Et donc c'est intéressant de voir, de plonger davantage dans le milieu concret à lequel sont nés la personne de Jésus avec ses disciples. Et puis tout le mouvement qui a vécu à partir de là. Donc c'était dans un milieu tout à fait hellénisé, que nous connaissons de mieux en mieux, précisément à partir des fouilles qui sont faites. Donc Jésus a fondé une petite communauté. Et cette petite communauté a continué de vivre après. Ça c'est un gros problème. C'est vrai que dans le milieu juif, il y avait un peu partout, en Galilée ou en Judée, il y avait des petites communautés qui vivaient. Et l'âme de ces communautés était généralement des rabbins. Et les rabbins n'avaient pas seulement, ne faisaient pas seulement des homélies à la synagogue, mais tenaient des écoles, bien qu'ils aient en même temps un travail, ils tenaient des écoles. Et ces écoles se réclamaient de différentes traditions. Dans le rabbinisme, il y avait différentes traditions. Et si je vous parle de tout cela, c'est pour vous montrer justement comment ce chemin, cette manière d'envisager les choses, a continué à vivre au début du christianisme, qu'on n'appelait pas d'ailleurs comme cela au départ. Petite communauté galiléenne, différente des communautés de Jérusalem. Il y avait quelque chose de plus hiérarchisé. La communauté de Jérusalem était plus hiérarchisée, plus organisée. Pourquoi ? Mais parce que c'est à Jérusalem que se trouvait ce qu'on pourrait appeler l'intelligentsia du judaïsme. C'est-à-dire toutes les têtes chercheuses. Et tous les théologiens se trouvaient, les grands théologiens se trouvaient là. Mais Jésus n'était pas rattaché à une communauté de Jérusalem. et les premiers disciples, s'ils ont vécu à Jérusalem, étaient considérés aussi par le milieu de Jérusalem comme pas tout à fait des étrangers, mais des gens qui vivaient un peu sur le bord du judaïsme. Ce n'était pas tout à fait le judaïsme authentique tel que l'on vivait, on le vivait à Jérusalem, c'était déjà en quelque sorte un judaïsme un peu, pour les gens de Jérusalem, en tout cas un peu abattardi, un peu laxiste, moins ferme, moins conservateur en tout cas que les milieux de Jérusalem. Et cette communauté, cette première communauté de Jérusalem, je ne sais pas s'il faut dire cette communauté ou cette première communauté de Jérusalem, parce que nous avons, nous, tendance tout de suite à monopoliser l'idée d'unicité, tandis que c'est assez probable que les différents disciples de Jésus ont déjà dans les milieux de Jérusalem trouvé des lieux où ils pouvaient se rassembler. Ces lieux étant, parce qu'ils vivaient un peu en marge du judaïsme de Jérusalem, ces lieux étant nécessairement des maisons, des gens qui accueillaient ces disciples. Pas nécessairement tous les 12 ensemble. Et c'est de Jérusalem, comme nous le disent les Actes des Apôtres, que les disciples sont partis et ont également fondé différentes petites communautés. Mais il ne faut pas croire que c'était un mouvement organisé d'avance, tout à fait programmé. Les choses se sont passées un peu, nous dirions, au hasard des événements. Les Actes des Apôtres nous disent que c'est au hasard de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire qu'il y a un discernement qui s'est opéré constamment devant les événements qui se manifestaient. Et nous avons eu, après cette première génération, qui est celle que nous appelons généralement, en tout cas que les Actes des Apôtres appellent les douze, que d'autres appellent les apôtres, c'est-à-dire les envoyés, mais Luc réserve ce mot d'apôtre généralement aux 12, que d'autres encore, par exemple Saint Matthieu, appelle les disciples, un mot un peu plus large. Et donc ces communautés ont essaimé petit à petit dans les différentes régions, comme le disent les Actes des Apôtres, d'abord en Samarie, puis en Galilée, puis de Galilée on s'est déplacé à Antioche. Et c'est d'Antioche, chapitre 11, verset 26 des Actes des Apôtres, c'est à Antioche, que pour la première fois, ces gens-là, qui étaient disciples du Christ, et qui rassemblaient des gens qui parlaient à la fois, enfin qui venaient à la fois, pardon, du judaïsme et du paganisme, et qui ont commencé à vivre ensemble, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à les appeler des chrétiens, c'est-à-dire des suiveurs du Christ. Mais vous voyez que c'est tout un chemin qui s'est fait. Et après ces grandes figures des apôtres, les apôtres, ou les douze, nom qui a été donné petit à petit à ce qu'on appelle la première génération, après Jésus, nous allons avoir après les apôtres ce qu'on appelle la deuxième génération. C'est-à-dire un certain nombre de disciples. Je vais mettre disciples, pour ne pas clicher trop les choses au départ. Et parmi ces disciples, il faut voir les sept. Eux, on appelle généralement des diacres. Ce n'est pas exactement le diaconat tel que nous l'avons aujourd'hui. Mais ce qu'on appelle les sept, c'est-à-dire des gens qui ne venaient pas de la terre d'Israël, qui venait d'ailleurs, de la diaspora, et qui avait été choisi au départ pour s'occuper, c'était le CPAS de l'époque, pour s'occuper des veuves qui parlaient grec, c'est-à-dire des gens qui étaient venus, des juifs bien entendu, qui étaient venus des territoires de la diaspora où l'on parle grec, qui ne parlait pas araméen, qui connaissait peut-être un peu l'araméen, mais qui ne parlait pas couramment, et qui avaient aussi leur communauté. Vous voyez, un problème de langue qu'il fallait résoudre, et on en voit sept qui sont d'abord préposés au service des tables, et puis on les voit un petit peu après préposés au service de la parole. Donc ils passent des tables à la parole. Des œuvres sociales, dirions-nous, hein, à l'œuvre profonde de la prédication. Il y a les sept, et parmi ces sept, vous connaissez le plus important, Étienne, le premier martyr, qui reprend un peu ce que Éléazar avait été à l'époque des Maccabées, le premier martyr, comme parfois Éléazar est considéré comme le premier martyr chrétien, alors que c'est 160 avant Jésus. Les sept, avec Étienne, et c'est dans cette ligne que se trouve Paul. Shaoul d'abord, qui reçoit le nom de Paul. Et c'est la deuxième génération qui va prendre le relais sans que ça ait été programmé dès le départ. Mais tout naturellement, les choses se sont passées comme ça. Les disciples de Jésus et puis les disciples des apôtres. Et nous avons vu dans les Actes des apôtres que Paul, qui avait commencé à évangéliser Antioche avec Barnabas, qui était un fidèle de la communauté de Jérusalem, qui était lui-même issu de la diaspora, Barnabas, puisqu'il venait de l'île de Chypre. Et donc, ces gens ont peu à peu, eux aussi, essaimé. Et nous connaissons par les Actes des apôtres, d'une certaine manière, nous ne connaissons pas tout, bien entendu. Nous connaissons tout le périple de Paul, qui, commençant avec Barnabas d'ailleurs par Antioche, s'en est allé par Chypre, et puis l'Asie mineure, et puis la Grèce, et s'est retrouvé finalement à Rome. Donc ça, c'est l'histoire après les apôtres. Donc cela nous mène, les apôtres, ça nous mène vers les années 50, 60, 70 éventuellement. Et continuant le travail des apôtres, vous avez les disciples qui prennent à partir des années 40, 50, jusque vers les années 80, 90, à la fin du premier siècle. Donc, deuxième génération après Jésus. Mais les travaux que nous avons, les évangiles, les lettres, l'Apocalypse, viennent encore après. Et donc, c'est encore une troisième génération, que l'on appelle souvent l'ère, dans mon barbare, sub-apostolique, c'est-à-dire après les apôtres, mais pour vous appeler aussi la troisième génération. Et c'est dans cette génération que vous avez, généralement, les évangélistes. Saül, par exemple. Quand on parle de génération, ces gens se sont connus les uns les autres, bien entendu. Mais ils ont trouvé leur moment de prédication, ou bien ils ont trouvé leur moment d'édition, de travail d'écrivain. Ils l'ont trouvé à un certain moment de leur vie, pas tout au début. C'est pas à l'âge de 18 ans qu'on se met à faire un évangile. C'est quand on a déjà vécu profondément avec les disciples, les apôtres. Et là, ça nous mène jusqu'à la fin du 1er siècle, dans les évangélistes, vers 80, 90, et pour Saint-Jean encore davantage, fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Et c'est parmi ces gens-là que vous avez des gens comme Marc, qui a été disciple de Pierre, semble-t-il, des gens comme Luc, qui a peut-être été disciple de Paul, ou des gens comme le rédacteur définitif de l'évangile de Jean, qui a probablement été disciple de Jean. Et ceci est important parce que ça nous montre justement le moment où on commence à écrire. Paul avait bien sûr écrit les lettres, mais il y a un moment où on se met à écrire, et on écrit soit dans la mouvance de Pierre, ou de Jacques, ou de Paul, ou soit dans la mouvance de Paul. Et suivant que l'on écrit dans telle ou telle mouvance, on insiste davantage, on souligne davantage tel trait ou tel autre trait de ce que la communauté commence à devenir. On met l'accent sur telle ou telle réalité de la communauté. Et c'est fort intéressant. Et aujourd'hui, on étudie de plus en plus tout ce milieu, tout ceci, pour voir un peu comment, petit à petit, les choses ont été vécues, ont donné des expériences différentes, suivant qu'on était dans telle ou telle région. À Jérusalem, on ne vivait évidemment pas comme à Antioche, ou même en Galilée. Et donc, suivant les milieux où les communautés se sont développées, suivant les prédicateurs qu'ils ont eus, et même lorsqu'ils avaient le même prédicateur, par exemple dans les églises d'Asie mineure qui ont eu le même prédicateur Paul, comme ils étaient administrés par différents groupes d'anciens et différentes figures, par exemple Tite ou Timothée ou d'autres personnages, Silas, etc., eh bien, les communautés ont pris tel ou tel visage un peu différent. Et vous voyez que le problème, à la fin du premier siècle et au début du second, a été de découvrir, par référence à Jésus et à l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Jésus, le problème a été de découvrir, tiens, mais qu'est-ce qui nous tient véritablement ensemble? Et le retour, ou le recours à Jésus et l'écriture des évangiles est précisément un des signes de cette unité fondamentale, cette unité que l'on recherche à travers des chemins qui ont été variés. Donc dès le début du premier siècle, enfin dès la fin du premier siècle, pardon, mais dès le début de l'Église, l'Église s'est découverte à la fois une, à cause de sa référence à Jésus et à l'Esprit Saint, et diverse, en raison même des groupes qui vivaient de Jésus et de son esprit. Alors, si je parle justement de Luc et des Éphésiens, c'est précisément parce que vous pouvez prendre plusieurs parmi ces évangélistes, puisque j'ai encore pris Jean, et de fait, il faut venir Jean. Peut-être pas l'apôtre Jean, mais celui qui a fini par rédiger l'évangile de Jean tel que nous l'avons aujourd'hui, et l'auteur de l'Apocalypse, qui est peut-être le même Jean, Jean de l'Apocalypse, mais qui donne des images de l'Église encore différentes de celles de Paul. Pierre, Paul, Jean, Luc, vous voyez, différentes images de l'Église. Différents caractères soulignés de la même réalité église. Alors, j'épinglerai parmi ces évangélistes ceux qui se trouvent le plus dans la mouvance de Paul. Et Paul, le Paul des grandes épîtres, je le mets ici un peu à l'extérieur, c'est trois, parce qu'il se situe. Et quand je parle du Paul des grandes épîtres, je parle surtout, bien entendu, des deux épîtres aux Thessaloniciens, dont probablement seulement la première ou le noyau de la première est effectivement de Paul, la deuxième étant vraisemblablement d'un disciple. Je parle évidemment des épîtres aux Corinthiens, de Galates et de Romains, qui sont vraiment la base de la théologie de Paul. Et c'est lui qui va nous parler, il parle souvent de l'Église, Paul. Mais la plupart du temps, il parle de l'Église qui est à Corinthe, ou l'Église qui est à Rome. Donc pour lui, c'est encore, ce qui est premier chez lui, c'est encore l'idée d'une communauté qui est à. Bien sûr que le terme qu'il utilise, Église, est un terme ecclésia, ça veut dire le rassemblement convoqué. C'est un terme qui vient du judaïsme, où l'on parlait de kehila. 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 Ça veut dire la communauté. C'est ce qui a, on traduit en grec, c'est ce qui a donné l'Église, le mot ecclésia. C'est une communauté qui est appelée. Rassemblé. Encore aujourd'hui, l'église hébréophone de Jérusalem s'appelle la Kehila, l'Assemblée. Donc c'est parmi ces évangélistes qui viennent après Paul, vous avez l'auteur, donc après ces grandes lettres de Paul, peut-être Colossien, est-elle de Paul lui-même. Vous avez donc différents auteurs qui ont écrit, mais toujours dans la mouvance de ces apôtres et dans la continuité de leurs pensées. Et parmi ceux-là, nous avons ce qu'on appelle l'auteur des épîtres pastorales, les pastorales, qui sont au nom de Paul, les pastorales à Tite et à Timothée, qui sont au nom de Paul, mais qui ne sont vraisemblablement plus de lui, même si elles reprennent tout à fait son esprit. Mais les épîtres pastorales sont fort intéressantes, précisément, parce qu'elles montrent déjà un passage qui est fait, et les épîtres pastorales, d'une manière tout à fait particulière, nous montrent l'organisation de l'Église. Elles insistent sur l'organicité et sur la hiérarchie de l'Église. Et tout le monde ne fait pas n'importe quoi dans l'Église. Il y a des épiscopes, il y a des évêques, il y a des anciens, des prêtres, etc. Et c'est vrai que ce sont, parmi les écrits du Nouveau Testament, ce sont ceux qui nous disent le plus quelle était l'organisation des églises. C'est là-dessus qu'on fait attention, c'est à cela qu'on fait attention dans les épîtres pastorales. Dans la ligne de Paul, mais déjà avec un petit, je ne sais pas s'il faut dire un petit plus, mais un petit quelque chose différent. On fait attention sur cette constitution de l'Église institutionnelle, comme nous dirions aujourd'hui. C'est là que nous avons surtout les données concernant l'institution. Donc, les épîtres pastorales, je vais mettre en parenthèse, institution, parce que c'est là qu'on en parle. Deuxièmement, nous avons les deux épîtres de Paul, comme on dit d'habitude, dont l'une semble bien être de lui, même si elle a été rédigée par un disciple, Colossien, qui est adressé à l'église de Colosse, une ville qui se trouvait aux alentours d'Éphèse, dans les Éphèse, Laodicée, Hiérapolis, Colosse, les villes de l'Apocalypse. Et là, tout un noyau qui gravite autour de l'église d'Éphèse, colossien. Bon, les idées sont tout à fait pauliniennes. La facture de la lettre est, selon certains, tout à fait paulinienne aussi, donc certains pensent que Paul en est l'auteur, d'autres sont plus dubitatifs par rapport à l'authenticité paulinienne de cette lettre. Et voilà, elle semble encore très fort dans la mouvance de Corinthiens et de Romains. Tandis que l'épître aux Éphésiens, appelé comme cela dans le livre, Éphésiens, celle-là est beaucoup plus controversée. Là encore, nous avons tout à fait une idée fondamentale de Paul, qui est cette idée de nous présenter l'Église, non pas comme une institution, mais comme une réalité concrète, vivante, le corps de Christ.
nous savons depuis l'épître aux Romains, nous savons depuis l'épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, hein, l'importance que donne saint Paul à cette vision de l'Église, et qui est une vision unifiante.
Un corps.
Un corps qui est fait de parties, de membres différents, mais un corps qui tient et organiquement établi. Et donc cette idée de corps du Christ, que je vais mettre, et je vais mettre entre parenthèses, non plus le terme d'institution, mais le terme de mystère, c'est le mystère de l'Église qui est davantage souligné dans des épîtres comme celle de Colossiens et Éphésiens. Mais ces deux épîtres sont vraiment profondément pauliniennes. Et c'est vrai qu'on pourrait croire, c'est plus difficile quand même à admettre aujourd'hui, donc on pourrait les croire tout à fait pauliniennes, de la main de Paul. Le problème pour l'épître aux Éphésiens, c'est que c'est la seule épître où dans les anciens manuscrits, on ne trouve pas de destinataire. Aux saints et aux disciples. Alors, à partir de 350 à peu près, on trouve à Éphèse, aux saints à Éphèse. Mais ça semble avoir été ajouté. Et de fait, hein, ça n'apparaît que au 4e siècle, en fait, dans les manuscrits. Les plus anciens manuscrits ne portent pas ce terme d'Éphèse. Et il est possible que ça ait été une lettre qu'on verrait aujourd'hui, une lettre encyclique, mais que l'on fait tourner aux alentours des églises d'Éphèse, parce que Éphèse était un centre à la fin du 1er siècle. C'est bien possible, c'est bien possible. Certains d'ailleurs lui attribuent une date assez tardive, 80 ou 90. D'autres la mettent plus tôt. Mais c'est une épître dont l'authenticité n'est pas absolument manifeste. Mais ce qui est décrit dans cette épître à propos de l'Église est tout à fait dans la tradition. Mais il est tout tardif, certainement. Et dans ces écrits de troisième génération, pastoral, soulignant davantage d'institutions, Colossiens, Éphésiens, soulignant davantage de mystères, nous y reviendrons justement, et nous avons l'œuvre de Luc. Et maintenant, on dit presque toujours, on ne parle plus de Luc, on dit presque toujours Luc Acte. On est convenu de parler comme ça. Et c'est important. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on reconnaît bien l'unicité de l'auteur. Luc Acte font partie de la même œuvre. Et après avoir étudié Luc et les Actes pendant plus de 10 ans, j'en suis arrivé vraiment à la conviction non seulement de l'unité, de la complémentarité des deux œuvres, Luc et Actes, mais de leur profonde unicité, unicité intérieure et même structurelle, et même littéraire. Donc ce sont deux œuvres. Par qui sont-elles écrites? Par qui Luc et Actes sont-elles écrites? Oui, nous dirons par Luc, bien sûr. Mais sachant, connaissant le phénomène de pseudonymie qui existe dans, aussi bien d'ailleurs chez les Grecs, chez les Romains et chez les Juifs, quand on veut indiquer qu'on est disciple d'un grand maître, eh bien, ce que l'on écrit, puisque c'est ce que l'on a entendu du maître, on le met sous le nom du maître. C'est comme ça que vous avez lettre paulinienne d'ailleurs. Et Luc Acte, quel est vraiment? Est-ce que c'est le Luc qui a été le compagnon de Paul? Certains le disent, on ne peut pas le nier a priori. Mais c'est probablement que celui qui a été disciple de Paul était beaucoup plus âgé que celui qui a écrit les Actes des Apôtres et l'Évangile de Luc. Mais, de nouveau, c'est une communauté, une tradition. Et ces traditions sont toujours très fermes parce qu'elles sont basées sur la tradition orale. Mais c'est intéressant, parce que le monsieur qui a écrit cela, c'est l'unique dans toute la Bible qui n'est pas un juif d'origine. Et ça, c'est vraiment important. Qu'il y ait dans la Bible un auteur qui soit païen d'origine. Bien sûr, devenu chrétien, mais qui n'est pas enraciné lui-même dans le judaïsme. Et chose étrange, n'étant pas enraciné dans le judaïsme, il donne une importance capitale au judaïsme, à Israël et à Jérusalem. Hein, venant de l'extérieur, il a découvert que le christianisme et Jésus lui-même n'étaient pas compréhensibles sans le judaïsme. Jésus était juif. Et c'est incontournable. Et comme homme venant de la diaspora païenne, probablement à Antioche, mais ce n'est pas sûr, pas probablement à Antioche, il a vraiment enquêté de façon très proche de Paul, ça c'est tout à fait clair. Il a utilisé des sources qui étaient très proches de Pierre et très proches de Paul. Mais il va nous donner aussi une idée intéressante de l'Église. Et vous voyez, si je les mets ensemble, c'est parce qu'ils viennent de la même époque. Disons, entre 60 et 80, pour faire bref, entre 60 et 80. Et donc, Luc et Actes vont souligner quoi ? Ces deux œuvres, mais du même auteur, vont souligner quoi ? Eh bien, la continuité. Continuité de quoi ? De ce que nous pourrions appeler du peuple de Dieu. Du peuple de Dieu. Ancien et Nouveau Testament. Hein, si j'utilise le terme peuple de Dieu, c'est parce que c'est un terme qui est utilisé dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu, le laos en grec. Le peuple constitué par Dieu, qui existe non pas par une volonté humaine, mais qui existe par la volonté même de Dieu. C'est Dieu qui a créé, par l'alliance, par l'élection, par l'alliance. Alors, regardez, quand vous mettez des œuvres qui datent à peu près de la même époque, vous avez déjà trois insistances différentes. Institution, mystère, continuité du peuple de Dieu, continuité avec l'Ancien Testament. C'est le même. Et c'est vrai qu'en comparant, en relisant l'Épître aux Éphésiens notamment, qui est par rapport aux Colossiens, qui est très proche de Colossiens, qui a à peu près la même structure et qui dit à peu près la même chose, mais un peu plus développé. En relisant Éphésiens, en relisant Luc et les Actes, eh bien, on trouve dans ces deux œuvres une très grande parenté. Très grande parenté. L'image que les Éphésiens et Luc et les Actes nous donnent de l'Église est une image déjà très unifiée. Très unifiée. Vous savez que Luc, et dans les Actes aussi, ne parle pratiquement jamais, sauf peut-être une fois, on peut noter, une fois, parle jamais d'église avec un grand E. Parle aussi toujours d'église locale. Il n'a pas encore connu l'église avec un grand E. Cependant, il nous montre dans l'action conjointe de Jésus ressuscité et de l'Esprit Saint, il nous montre précisément le principe unificateur. Mais Saint-Luc, évidemment, et les Actes même dans la même occasion, nous raconte, nous parle d'une église que nous pourrions appeler aujourd'hui un peu flattée, une église idéale. Il ne parle pratiquement pas d'institution. Les quelques données que nous avons, Paul institue des anciens, hein, l'église d'Antioche par exemple, ou à d'autres églises du Moyen-Orient, sont vraiment très pauvres. On ne sait pas grand-chose avec ce que Luc nous dit. Il ne parle pratiquement pas d'institution. Et Paul, dans Éphésiens, ou peut-être un peu dans Corinthiens, il parle, mais enfin, ce qu'on peut appeler, ce sont plutôt des charismes que des institutions, chapitre 14e, de la première aux Corinthiens. Pratiquement pas d'institution. Mais il nous parle, aussi bien Éphésiens que Luc et Actes, il nous parle d'une église qui est vraiment le corps du Christ vivant. Et c'est bien ce que Saint-Luc a voulu nous manifester dans sa double œuvre. Il a voulu retourner à Jésus, comme l'avait fait Marc avant lui, en écrivant un évangile, le mot euangelion, évangile, une bonne nouvelle, est un terme qui a été forgé par Saint Marc, semble-t-il, à partir du mot qui existait déjà, et que le deuxième Isaïe, au chapitre 40e, dans le livre d'Isaïe, qu'il utilise déjà, le prédicateur de bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Et donc, Saint-Luc remonte à Jésus pour nous faire découvrir comment ce que nous voyons dans une église à un moment déterminé, vers les 80, hein, septembre 80, après Jésus-Christ, était déjà en germe dans la vie de Jésus. Et cela me frappe de plus en plus. Quand nous lisons Saint-Luc, l'évangile de Luc, il faut le lire à partir des Actes des Apôtres. On découvre beaucoup mieux ce qu'il veut dire dans l'Évangile. Il montre justement que l'Église qu'il a connue à Antioche, sans doute, ou bien en Grèce, cette Église-là était déjà en germe dans la vie de Jésus. Et alors, il va nous écrire un Évangile. Il me semble qu'on peut le développer comme on avait déjà vu Saint-Luc ici, on va mettre chaud. Luc, voilà. D'un côté, et les actes de l'autre. Et bien, quand vous regardez ces deux travaux, ces deux œuvres, vous les mettez en face l'une de l'autre, vous voyez qu'un parallélisme extraordinaire se dessine entre ces deux œuvres. Ils ont, comme j'ai essayé de le montrer dans le livre des Actes, dans le livre, pardon, de l'Évangile de Luc, mais j'ai repris les choses dans le livre des Actes. Vous avez cinq sections. Et pour l'Évangile de Luc, vous savez que Saint-Luc appelle Jésus la parole de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme de parole de la grâce? La grâce de Dieu, c'est la gratuité divine. C'est le don gratuit de Dieu, c'est ça la grâce. Le don gratuit qui va s'exprimer de multiples façons, dans des dons particuliers. On va appeler charisme, charisma, c'est le mot qui vient de charis, la grâce. Ce sont des petites grâces. Les charismes sont des grâces, des mini-grâces, si vous voulez, par rapport à la grande grâce, qui est parlante. Pour ça, la parole de la grâce, c'est la gratuité de Dieu qui parle. Et qui parle à travers sa vie, qui témoigne à travers sa vie et à travers sa parole. Et qui accorde sa parole à sa vie et sa vie à sa parole. Et donc, il va nous décrire comment advient cette parole de grâce. Et donc, vous avez l'origine est divine. On va nous montrer surtout l'origine. Et le commencement, ce n'est pas l'origine. Hein, de la parole de la grâce. Là. La parole de la grâce. On peut écrire PDG, mais ça ne peut pas dire la même chose que ce que vous avez dit. Parole de la grâce. L'origine, c'est d'où ça vient. Le commencement, c'est quand on remarque, quand il prend position, hein, Jésus commençant, comme le dit le chapitre 3 de Saint-Luc, Jésus était commençant, il commence à un moment déterminé. C'est-à-dire, il prend position à l'âge adulte. Avant cela, ce sont ses origines à la fois divines. Il vient de Dieu, il est le Fils de Dieu, on vous l'explique. Et en même temps, origine humaine, il parcourt tout l'Ancien Testament. Et c'est repris d'ailleurs par la généalogie au baptême. Donc, origine de la parole de la grâce et commencement de cette parole de la grâce. pour montrer d'où ça vient. Et ça couvre les chapitres 1 à 4. On voit d'où ça vient et comment ça commence. Vous voyez, ça c'est vraiment la perception de Saint-Luc. Et c'est intéressant pour nous aujourd'hui parce que quand nous voulons savoir quelle est notre Église, allons voir au départ. Allons voir au départ. Et est-ce que notre Église est l'Église que Jésus a fondée au départ, ou qui était au départ de Jésus? Est-ce que c'était déjà Jésus? Qu'est-ce que c'était au départ? Commencement, origine et commencement. Et puis, puisque c'est une parole, il faut l'écouter, bien, on va essayer d'écouter cette parole. Mais vous savez que dans l'Église de... Écoute, je vais mettre une aide de la parole de la grâce. C'est Jésus des contraintes. Je dis, écoute au pluriel, mais oui, parce que dans la communauté d'Antioche, qu'a connu Luc est intervenu à l'évangile. Il n'était pas un des apôtres, il ne faisait pas partie de la communauté de Jésus. Il a été atteint par la grâce, par l'Esprit Saint, dans la communauté d'Antioche, vraisemblablement. Et là, dans cette communauté d'Antioche, il y avait des gens venus du paganisme et des gens venus du judaïsme, et qui devenaient, les uns comme les autres, adeptes de Jésus, de Nazareth. On les appelait d'ailleurs des Nazaréens au départ. Bon. Et Saint-Luc va bien découvrir qu'un juif n'écoute pas Jésus ou ne voit pas Jésus de la même manière qu'un païen. Ils viennent pas à Jésus de la même manière. C'est une communauté où vous trouvez une écoute juive, je vais mettre juive puisque j'aime l'écoute, et une écoute païenne. Et Saint-Luc va vous trouver deux prototypes.